avec Benoît Marchal.
Bienvenue, bienvenue pour cette émission de Déclencheur.
La photo, comme vous ne l'avez jamais entendue.
L'émission que vous allez apprécier cette semaine sort avec un léger retard d'un petit peu plus d'un an. En 2009, en effet, nous avions organisé une rencontre avec l'équipe d'Erol, rencontre sur le thème « Au-delà de la création, comment vendre ses photos ?». La formule se voulait très interactive avec des questions des photographes à Éric Delamar. Éric Delamar qui présentait son livre « Profession photographe indépendant ». Ce livre qui est unanimement reconnu comme le livre de référence pour qui veut s'installer comme photographe. Et Éric nous l'a prouvé tout au long de la rencontre, c'est un sujet qu'il maîtrise sur le bout des doigts. Vous allez l'entendre dans quelques instants. J'évoquais le retard, mais ce n'est pas vraiment un retard, c'est simplement pour nous permettre d'accompagner la sortie de la deuxième édition de Profession photographe indépendant, que je vous propose maintenant un très long extrait de cette rencontre. Plus de 50 minutes où on aborde les sujets les plus variés, en réponse aux questions directes des photographes. Donc ce n'est pas un remplaçant du livre, c'est vraiment un complément pour être très concret par rapport aux questions des photographes, autour de trois thèmes. S'installer comme photographe, auto-entrepreneur, SARL, photographe, auteur, artisan, quel statut choisir et pour qui en fonction de sa situation. Vendre ses photos, le rapport affectif du photographe à ses créations, définir la cible, la presse, l'entreprise, la mode, l'art, les associations, comment fixer son prix, comment construire son book. Et puis on va parler du marketing avec une question tout à fait surprenante sur la qualité des tirages. Juste avant de laisser partir la rencontre, je vous rappelle l'actualité sur Déclencheur parce qu'on a une actualité très riche en ce moment. Tout d'abord, l'application Déclencheur pour iPhone pour suivre les émissions et pour suivre Déclencheur Carnet. Le premier e-book ou e-mag, j'arrive pas vraiment à me décider sur le nom multimédia, sur photographier avec l'iPhone, j'insiste sur le côté multimédia, allez lire les commentaires, c'est vraiment un plus. Et enfin, la nouvelle boutique Déclencheur qui vous permet d'acheter une émission Déclencheur Gold et, sous certaines conditions reprises sur www.déclencheur.com, quand vous passerez à l'adhésion annuelle, on en déduit le coût de l'émission. L'occasion donc d'essayer Déclencheur Gold sans risque. Donc bienvenue, bienvenue pour cette rencontre Déclencheur Erol. Je m'appelle Benoît Marchal, je suis l'éditeur de Déclencheur et je passe la main à Stéphanie Poisson.
Bonjour, donc je suis heureuse de vous accueillir au nom des éditions Erol et de l'équipe éditoriale photo. Représentée par moi-même, Aude Dessel et Hélène Pouchot qui ont organisé cette conférence avec Éric Delamar et Rémi Chapeau-Blanc qu'on accueille donc aujourd'hui pour ce petit moment d'échange avec vous.
Donc on est là effectivement aujourd'hui pour parler de au-delà de la création, comment vendre ses photos. La rencontre elle-même va être divisée en trois parties. On va d'abord aborder le thème de comment s'installer. La deuxième partie sera consacrée à la relation avec le client et la vente. Et la troisième partie sera consacrée au marketing, c'est-à-dire comment se faire connaître. Alors on va essayer d'être aussi interactif que possible, c'est-à-dire que nous avons nos deux invités, Éric Delamar, qui est l'auteur de ce livre « Profession photographe indépendant ». Donc Éric est photographe de profession, c'est son métier, il en est très fier. Et le livre était anciennement édité par l'UPC, il est maintenant chez Erol. Éric nous expliquera tout à l'heure l'histoire de ce livre. Alors on a voulu aller au-delà du livre, c'est-à-dire on suppose que vous l'avez lu ou que si vous ne l'avez pas lu, vous allez l'acheter tout à l'heure à la librairie, vous le ferez dédicacer et puis vous le lirez par la suite. Donc on ne va pas reprendre les questions de base qui sont dans le livre, on veut aller plus loin, on veut aller avec des questions plus spécifiques. Et pour ça, on a d'abord Rémi Chapeau-Blanc, qui est un jeune photographe, auteur. Rémi va un petit peu vous représenter, il va représenter les jeunes photographes qui s'installent. Par ailleurs, on veut également que vous, c'est-à-dire qu'on aura un micro qu'Hélène tient en main, il va vous permettre de poser des questions. Pour commencer, Éric, tu avais une manière assez intéressante de nous expliquer l'histoire du livre, comment il est venu au monde.
Oui, en fait, c'est pas venu comme ça. Hein. Je suis photographe de formation, j'ai fait les Gobelins. Quelques années après, j'ai le responsable qui est venu me voir en me disant est-ce que tu pourrais venir parler aux étudiants de ce qui se passe en dehors de la photo ? Parce qu'on s'était rendu compte qu'à aucun moment dans les formations, il y avait de formation gestion. Il y avait de formations qui étaient sur comment vendre ses photos, comment parler, le commercial, etc. Ça s'apprenait sur le tas. Et on m'a donc juste demandé de faire ça. Je vais faire trois interventions. Les étudiants en ont demandé deux autres. Et puis, d'année en année, je suis venu intervenir. Et comme quand on intervient dans les écoles, au bout d'un moment, on dit « T'as pas un support de cours par hasard ?» Je dis « Non, pas de support de cours. Moi, je suis venu intervenir. Donc, je cause et puis c'est bon. » Et puis, et j'ai quand même essayé d'être un peu sérieux. J'ai commencé par faire des supports de cours. Il y en a eu 5 pages, puis 10, puis 15, puis 20, 30. Et au bout d'un moment, j'ai dit, bon, ça va bien comme ça. Ça me coûte cher en photocopie. J'ai demandé à l'UPC, puisque je faisais partie du conseil d'administration, donc j'étais à la facilité quand même, il faut bien être clair, j'ai demandé à l'UPC s'il était possible d'éditer un livre par rapport à ça. Ça s'est fait comme ça, et en 2000, je crois que c'est en l'an 2000, dans ces eaux-là, la première édition est sortie. Et puis d'année en année, elle s'est augmentée pour arriver en 2007, donc l'année dernière, un livre qui se diffusait pas mal finalement, mais qui était vendu qu'à l'UPC. Donc même en diffusant pas mal, dans une seule partie, moi ça m'allait bien, hein, comme je suis un peu feignant, dire, c'était bon, ça allait. Et puis il y a une amie qui m'a dit, mais tu devrais quand même t'occuper de le faire diffuser un peu plus, ce livre. J'ai dit, bon, donc j'ai écouté, il faut écouter ses amis en général, c'est pas mal. Et puis, il y a un autre ami qui s'appelle Vincent qui m'a en profité pour m'envoyer un mail en me disant que ben, si je voulais faire diffuser mon livre, il pourrait m'introduire auprès d'une maison d'édition. Alors, il dit, bon, écoute, tout se mettait bien en place. Là. Moi, je ne faisais pas grand-chose. Hein, jusqu'à présent, le bouquin était sorti et tout. Et c'est comme ça que ce livre est arrivé aux éditions Erol. Et c'est comme ça que je me retrouve devant vous. Vous voyez, entre le moment où tout ça... Pour être tout à fait honnête, j'ai quand même beaucoup de chance. Il y en a qui rament comme des malades pour se faire imprimer un bouquin. Moi, j'avoue que sur celui-là, je n'ai pas fait grand-chose. Si ce n'est que de rassembler des informations, me dire qu'il y avait peut-être une demande par rapport à ça. Mais c'est vrai que quand vous regardez le livre et son contenu, en dehors des introductions, dont la même amie d'ailleurs m'a donné quelques pistes pour m'inspirer pour les rédiger d'une façon un peu plus souple. En dehors des introductions, ce sont des collectes d'informations fiscales et sociales. Et ça a été rassemblé. Alors, je vous accorde que jusqu'à présent, personne ne l'avait fait, mais toutes les informations qui sont dans le livre sont des informations qui existent un peu partout. Sauf que les ponts n'avaient jamais été faits. Et que dans notre métier, le problème, ce n'est pas les informations, c'est les ponts.
Justement, question de la salle.
Bonjour. J'ai retenu beaucoup de choses importantes et intéressantes dans votre livre, dont une, c'est quand on se lançait dans son activité, de se précipiter à son centre des impôts et de déclarer une activité. Et puis j'ai compris aussi qu'il y avait différents régimes selon qu'on faisait de la presse, de la com, de la pub, etc. Là où j'arrive pas à me situer, et c'est mon cas, c'est le cas du photographe dont la principale partie du travail serait destinée à la presse, avec un tout petit volet de travaux à côté... pour des agences de com ou autres, en dehors de la presse. Est-ce que ça a du sens de se déclarer à la GSA ? Est-ce que ça a du sens de déclarer une activité en tant que telle au fisc ? Sachant que par ailleurs, en tant que journaliste, on est couvert, que les piges incluent des charges, etc. Merci.
Alors, ça a du sens à plus d'un titre. La première raison pour laquelle ça a du sens, c'est que normalement, selon la loi, toute perception de droit d'auteur est assujettie à la GSA. Qu'on bénéficie ou non du régime. Donc, on doit n'importe comment payer, par exemple, du précompte sur du droit d'auteur, dans tous les cas. Quand, par ailleurs, vous avez une activité de journaliste sur laquelle vous payez, évidemment, des charges sociales et vous cotisez pour la retraite, si, en dehors de ça, vous avez ce que les journalistes appellent une activité corporate, donc pour la communication d'entreprise, que vous faites des notes d'auteur, si en plus vous avez fait une déclaration d'activité, ça vous permet à terme de pouvoir cotiser à la GSA pour la retraite. C'est-à-dire que ces recettes que vous avez en tant que droit d'auteur sont comptabilisées pour les trimestres de retraite, ce qui n'est absolument pas le cas quand vous êtes juste assujetti à la GSA. Vous payez par l'intermédiaire du précompte que la sécurité sociale, pas la retraite. Donc vous vous exonérez de vos obligations sociales, mais vous ne cotisez jamais pour la retraite. Et il semblerait, avec les quelques confrères journalistes que je connaisse, que les activités soient de plus en plus fluctuantes côté presse, et ils se dirigent assez souvent vers des activités plus entreprises. Et il arrive que ces activités entreprises atteignent des sommes qui sont plus négligeables, on va dire. Et c'est un peu dommage que ces sommes-là ne génèrent pas des trimestres de retraite, entre guillemets, même si on ne sait pas trop ce qu'on touchera quand on sera à ce moment-là, mais ce serait un peu dommage que, quelque part, l'argent que vous avez touché
ne soit pas comptabilisé dans ce sens-là. Ensuite, se déclarer au centre des impôts, c'est un peu une obligation. Faire une déclaration d'activité professionnelle pour déclarer son activité. Même si on a, en lisant certaines annexes du Code général des impôts, on pourrait surfer sur des mots un peu équivoques qui sont dans ces annexes pour ne pas faire de déclaration d'activité. Mais je ne vous le cache pas que, étant donné que la conversation est enregistrée, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose d'en faire une trop grande publicité, mais il y a une annexe du Code général des impôts qui est équivoque dans les termes. Donc si on voulait être de mauvaise foi, on pourrait utiliser cette annexe, et c'est équivoque dans les termes. Alors je vous la donne, je vous donne le numéro, après vous n'aurez qu'à la lire. C'est l'annexe 974. Voilà. Elle est sur mon site, de toute façon.
Oui.
Bonjour. Donc moi, j'ai eu, il y a quelques mois, à ouvrir ma micro-entreprise parce que je fais de la vidéo à côté de la photo. Et depuis que j'ai fait cette démarche, il y a le statut d'auto-entrepreneur qui est arrivé. Et ça a l'air assez pratique parce qu'on peut justement... Il n'y a pas vraiment beaucoup de limites dans les domaines qu'on peut facturer justement à des clients. Alors, il n'y a peut-être pas de notion de droit d'auteur, etc. dans ce statut. Je voulais voir... avec vous, ce que vous en pensez et les limites de ce régime.
Ok, merci pour la question. Eric ?
J'ai le même avis sur la micro-entreprise que sur le statut d'auto-entrepreneur, qui est valable dans des cas extrêmement restreints et certainement pas pour une activité professionnelle. Dite professionnelle, on va dire. En activité accessoire, oui, certainement. Mais dès qu'on veut exercer son activité d'une façon régulière et avoir tant de... et vouloir la développer, ni l'un ni l'autre de ces deux statuts sont, à mon sens, intéressants. Le problème de ces statuts-là, que ce soit micro ou auto-entrepreneur, c'est qu'ils sont pourris de limites. C'est d'ailleurs le principe même de ces statuts, hein, c'est d'être limité. Hein.
Après, pour faire des cours du conseil, il y a 18,5% de charges. On est affilié à la CIPAV et il n'y a pas d'abattement.
Je vous assure, pour avoir... alors, je ne suis pas un expert du statut d'auto-entrepreneur, parce que je ne l'ai pas appris par cœur, mais j'ai lu attentivement la brochure qu'ils ont mis en ligne au départ, y compris les modifications qu'ils ont faites dernièrement sur les métiers. Et il y a quand même un abattement, puisque c'est une extension du régime micro. Maintenant, cet abattement pour frais professionnels, il n'est insuffisant. Et c'est jamais au réel. L'auto-entrepreneur et le micro-BNC, c'est jamais les frais réels. Donc c'est des choses qui sont... Et vous ne pouvez pas opter pour la TVA, ce qui veut dire que votre abattement pour frais professionnels tient compte de la TVA. Donc quand vous faites un calcul d'un point de vue purement mathématique, en comparant... à chiffre égal et un statut avec un forfait ou un statut au réel, vous pourriez avoir des surprises en fonction de vos activités des uns ou des autres. Ce n'est pas systématique. Entendez bien ce que je vous dis. Ce que je dis, ce n'est pas forcément valable pour tout. Alors oui, c'est la légalisation du travail au noir. Hein, ça, on est bien d'accord. Hein, c'était au départ fait pour le service à la personne. Ça s'est étendu à d'autres choses. Je ne vous cache pas que les maçons sont ravis de ce statut. Hein, ça leur permet de comparer, on compare leur activité à une activité de bricoleur. Enfin bon, ils sont ravis. Les photographes auteurs, ça ne les concerne pas parce qu'on ne peut pas être photographe auteur et auto-entrepreneur. Donc, bon.
Si j'entends bien, ce que tu dis, c'est en final, quand on fait le calcul, le statut est présenté comme étant très attractif avec peu de charges, etc., etc. Et ce que tu dis, c'est que quand on fait le calcul, si on a une activité raisonnable, c'est faux. Et en final, on se retrouve à, par le jeu des abattements plus réduits, à en fait...
payer trop d'impôts. On paye des impôts sur des dépenses, hein, sur des charges. C'est-à-dire que si vous avez... on constate, en moyenne, hein, que même quelqu'un qui travaille chez lui peut facilement trouver 50% de frais professionnels quand il fait bien son truc. Quelle que soit un peu sa charge de travail.
Avec le loyer,
les abattements, enfin, je ne vais pas vous faire la liste, allons comme ça. Donc, une fois que vous avez fait vos 50% de frais professionnels, il reste 50% sur lesquels vous payez des impôts et vos charges sociales. Donc, les charges sociales viennent en plus là-dessus. Sur le statut d'auto-entrepreneur, ce n'est pas ça. Donc, quand on fait des graphiques, on s'aperçoit très vite que dans beaucoup de cas, en fait, on va payer des impôts obligatoirement sur 50% de bénéfices, quel que soit le montant des frais professionnels que nous aurons. J'ai fait quelques calculs que j'ai mis en ligne aussi. Alors, je ne vous cache pas qu'ils sont forcément de parti pris. Hein. Donc, mais ça donne un peu des pistes. Et ça, un peu pour inciter chacun à réfléchir en fonction de ses propres besoins. Il y a des trucs tout bêtes. Hein. Si vous voulez savoir, par exemple, de combien doivent être vos bénéfices, je vous rappelle que les bénéfices, c'est ce qui vous sert à vivre. Donc, vous additionnez tous vos relevés de banque de l'année. Et vous verrez ce que vous devez faire de bénéfices. En général, on est vert. Quoi. Oh purée, j'ai dépensé tout ça. Ben oui. Et puis après, vous multipliez par deux pour avoir votre chiffre d'affaires. Et ça vous donne un peu des idées de ce que vous devez gagner, faire comme chiffre d'affaires pour arriver à vivre de votre métier. Voilà.
Oui, toujours sur le régime d'auto-entrepreneur. À la question de savoir si ça vaut le coup de choisir en toute liberté... Et en toute conscience, ce statut, vous répondez non. Il pourrait y avoir une question corollaire, c'est quelle capacité auront les photographes à refuser ce statut quand des employeurs chercheront à l'imposer d'employeurs qui, alors que par le passé, ils auraient pris quelqu'un en CDD ou à la pige, poussent collaborateurs à prendre le régime d'auto-entrepreneur qui apparaît très pratique et très économique pour l'employeur et très défavorable pour le producteur d'informations.
Bien sûr. Alors, j'ai une réponse à ça. Alors, toutes les réponses que je vous fais, évidemment, sont des réponses excessivement théoriques hein, et légales. Il faut savoir que c'est pas nouveau que des employeurs poussent des gens qui devraient être payés en salaire à faire des factures parce que ça évite de payer les charges sociales. Ça a commencé par une profession qui s'est piquée de faire ça depuis des années. Ça s'appelle des photographes, cette profession. Des photographes qui, depuis 20 ans, 25 ans, 30 ans, poussent leurs assistants, parce qu'ils n'ont pas envie de payer les charges sociales, à faire aujourd'hui des notes d'auteur et hier des notes d'honoraires. Ces photographes se mettaient en illégalité totale avec la loi en transformant une activité subordonnée en activité indépendante. Or, l'URSSAF ne reconnaît pas le statut d'indépendant aux subordonnés. Dès que vous êtes sous les ordres de quelqu'un, vous êtes subordonné. C'est aussi une des raisons pour lesquelles, en tant que formateur, normalement, on doit être payé en salaire.
D'accord.
Parce qu'on est astreint à des horaires, un lieu, à certains, des conditions d'exercice qui correspondent à des conditions de subordination. Subordination, ça ne veut pas dire esclave, hein, ça veut dire subordonné. Hein.
Ça veut dire qu'on doit obéir à un règlement, à des
oui,
des
c'est
ordres,
ça, à des heures, à des choses comme ça. Et, je veux dire, on est subordonné. Et ce discours hein, que je vous tiens là, je ne l'ai pas dit hier, hein, quand j'étais à l'UPC, je le tenais aussi, je ne me suis pas forcément fait que des copains, peut-être, d'ailleurs, j'en sais rien, ou alors ils ne s'entendaient pas, enfin, peu importe. C'est un souci. Alors, c'est un souci qui s'étend maintenant à d'autres environnements et où ce statut d'auto-entrepreneur vient mettre un peu le clou dans la chaussure, à mon avis. Mais, encore une fois, c'est pas parce qu'on a le statut d'auto-entrepreneur que ça doit autoriser des employeurs à transformer des modes de rémunération, qui sont des modes de rémunération subordonnés, donc en salaire, en rémunération indépendante. J'ai un autre exemple. Vous êtes régulièrement déclaré à l'URSSAF ou ailleurs, en tant que conseil, enfin, je veux dire, tout comme il faut. Et vous vous trouvez dans une situation de subordination. Vous êtes payé, vous faites une note d'honoraire, il y a un contrôle URSSAF. Si le contrôleur de l'URSSAF considère que la prestation que vous avez faite était une prestation de subordonné, ils peuvent tout requalifier en salaire. Ils ont cette capacité, ils ont ce pouvoir. Certaines entreprises s'en sont trouvées très très mal quand même, hein. Avec des requalifications en salaire, ça fait mal. Hein.
Ben alors, on va prendre une question de la salle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question sur le sujet ?
Bonjour. Donc, en fait, depuis tout à l'heure, on parle d'auto-entrepreneurs, de micro-entreprises, mais on ne parle pas des CRL, ERL. Et en fait, le statut, justement, dans ce cas-là, ça donne quoi ? Parce que moi, je suis plutôt dans cette situation-là. Je suis en train de développer une activité de photographie et voir ce que je dois appliquer en modification sur la société. Voilà.
Bon. Je vais vous répondre. Pas de souci. Et on peut très bien exercer l'activité de photographe en tant qu'SARL, EURL, bien sûr. Dans une SARL, on a des charges qui sont importantes en termes d'impôt forfaitaire annuel, impôt société, etc. On a un impôt sur les bénéfices. Une SARL fonctionne aussi en rémunérant son gérant ou la personne qui en fait partie en salaire. Et c'est un des intérêts de la SARL. Ce qui fait que le bénéfice d'une SARL ce n'est, quand on le dégage, c'est en général pour redistribuer aux actionnaires ou laisser en trésorerie dans la SARL, etc. Et il peut être intéressant de ne pas faire de bénéfices. Il ne s'agit pas de faire de la fraude, hein. Enfin, c'est pas ça que je vous dis. Mais on sait très bien que quand arrive la fin de l'année, si on voit qu'on va faire du bénéfice, on se verse une prime, on fait deux, trois bricoles pour ne pas faire de bénéfice. Bon, il y a une autre façon pour ça, qui est tout à fait légale aussi, qui est qu'un auteur qui fait partie d'une, qui est dans sa SARL, ne fait pas apport de ses droits d'auteur à la SARL en question. Il n'a pas intérêt d'ailleurs. Parce que je vous rappelle que la SARL ne vous appartient pas, c'est une autre personne. Hein. C'est quelqu'un qui n'est pas vous. Donc vous n'avez pas intérêt à tout donner à la SARL. Si jamais elle vous dépose, ce que je ne vous souhaite pas, vous perdez tout. Donc on ne fait pas apport de ses droits d'auteur à la SARL, on fait apport que de son temps. Et puis ces droits d'auteur, on les garde et éventuellement on les cède à part aux clients en plus. Ou alors on les rétrocède à la SARL ponctuellement et on a une activité d'auteur en parallèle. Quel est l'intérêt de ça ? Ben, c'est tout simplement que vous allez sortir artificiellement une part du chiffre d'affaires de la SARL en tant qu'auteur. Cette part sera moins imposée, aussi bien en termes de charges sociales qu'en termes de bénéfices. Et puis, ça vous gardez une partie de votre liberté et de l'activité que vous pouvez avoir après si jamais vous vendez vos parts de la SARL, vous gardez vos droits d'auteur. Ne cédez jamais, enfin, il me semble, il ne faut pas que je sois trop affirmatif non plus, moi. Faites attention à bien réfléchir avant de céder vos droits d'auteur totalement à un organisme quel qu'il soit, y compris si cette entreprise est la vôtre. Parce que pour l'instant, cette entreprise est la vôtre, elle ne le sera pas toujours. Je sais, j'ai fait un dépôt de bilan il y a 10 ans, donc c'est quand on dépose le bilan, la partie structure, la partie outil, vous perdez tout. Vous ne l'avez plus, hein. Ça y est, c'est pas vous. De toute façon, c'était pas vous déjà. Donc c'est sûr, vous confirmez que c'est plus vous là. Et si vous avez tout donné, vous n'avez plus rien, quoi. Le matériel, des fois, on s'y attache. Le premier appareil, tout ça.
Rémi, tu avais...
Deux petites questions, en fait, qui m'ont été posées par email, par des internautes. Une personne qui n'a pas du tout prévu de faire de la photo son métier, on lui demande, est-ce que tu peux me vendre telle photo ? Est-ce qu'il y a une solution simple pour lui de légalement vendre une photo sans avoir préparé ni statut social ou fiscal, en fait ?
Alors, oui, faire une note d'auteur précomptée sans TVA, on va revenir toujours sur la même chose. Et puis, sur le fait de jouer cette fameuse annexe 974, qui... on surfe sur le fait que, bon, voilà, on ne fait pas de déclaration d'activité. À partir du moment où ça reste très épisodique, je veux dire, si c'est une, deux, trois, quatre fois dans l'année, si ça n'atteint pas des sommes fabuleuses, c'est pas bien grave. Et vous les déclarez, hein. Attendez, il a dit qu'il ne fallait pas déclarer. Non, non, vous déclarerez aux impôts sur la 2042C, la 2042 complète, enfin la déclaration de revenus complète. En général, quand on n'a pas d'activité de bénéfices, on a une simplifiée, et quand on a une activité de bénéfice, on a une page en plus sur laquelle on met des chiffres. Donc dans la 2042 complète, dans la déclaration de revenus complète, il y a une case bénéfices non commerciaux, non professionnels.
D'accord.
Case qui est remplie quand on est en micro-BNC, en auto-entrepreneur, etc. Donc si vous n'avez que quelques revenus, comme ça, je ne sais pas, 1 000, 2 000, 3 000 euros dans l'année, vous êtes en règle vis-à-vis des charges sociales, puisque vous avez...
cotiser, enfin, au précompte
fait le précompte AGSA sur une note d'auteur, donc là vous êtes en règle. Donc côté charge sociale, on ne peut rien vous dire. Et puis côté impôt, vous êtes en règle parce que vous déclarez vos revenus.
D'accord.
Puis c'est tout.
On entend parfois qu'il y a une limite de montant, etc. Et là tu dis c'est pas régulier. Pas régulier, c'est flou.
C'est flou.
Quand on dépasse les sommes prévues, par exemple, de la micro-entreprise, à ce moment-là, je dirais, on va aller dans un autre statut, quoi. Je crois que c'est cela. Moi, ça m'est arrivé, je suis en activité annexe, on va dire, et je suis en micro-entreprise, et on m'a demandé de vendre quelques photos, ce que j'ai fait effectivement, mais ça représente qu'une petite part de ce que j'ai en revenus annexes. Mais les impôts ne m'ont pas dit qu'il y aurait un seuil en tant que tel qu'il ne faudrait pas que je dépasse. C'est vrai que c'est flou.
Non, sur ces histoires de seuil, alors, toutes les histoires de moins de 2 000, 3 000, 4 000, tout ça, c'est des légendes urbaines, hein. Donc, il y a un fameux seuil qui est 4000 euros de l'URSSAF, qui est qu'à l'URSSAF, quand on se déclare à l'URSSAF en tant qu'indépendant, qu'on compte faire moins de 4000 euros de bénéfices, on ne paye pas d'URSSAF. Ça ne veut pas dire qu'on ne les déclare pas déjà. Hein. Mais en revanche, on va payer de la retraite. Sur le montant, je m'étais renseigné, parce que j'essaye de ne pas dire trop d'âneries, et j'étais allé voir les impôts en disant à partir de quel moment est-ce qu'il faut vraiment faire une déclaration d'activité, etc. Alors évidemment, ils ne m'ont jamais écrit, hein, ils ne m'écriront pas, ils me disent « Oh, si vous faites 2-3 000 euros dans l'année, ça va ». En gros, c'est tout juste, ils ne me disaient pas « Vous n'avez même pas besoin de les déclarer hein. ». Ils ne me l'ont pas dit, hein, mais enfin, ils m'ont bien laissé entendre. Enfin, ils me disent « C'est comme si vous faisiez une brocante, quoi ». Moi, je trouve ça ambigu, hein, ce genre de discours. Hein, mais bon,
non.
Je trouve ça ambigu, mais bon, s'ils sont comme ça. C'est pour ça que quand vous me dites quel montant, j'en sais rien.
On va prendre une dernière question sur le thème de s'installer, statut, déclaration, etc. Soit une question sale, soit une question Rémi. Je sais pas, je vois quelqu'un.
Bah, on va laisser, je pense, la question sale. Enfin, j'avais une question, mais c'est...
Bonjour.
Bonjour.
Moi, ça va rejoindre un petit peu les deux dernières questions qui ont été posées, à savoir pas forcément la vente d'une photo comme ça, je dirais, en improviste, mais si on a déjà un métier qu'on voudrait éventuellement avoir soit un second métier, soit une activité annexe, effectivement, mais de photographe, soit en subordonné ou soit en indépendant ou en artiste, ou justement, quel est le format qui serait... Le plus adapté, parce que j'en ai lu pas mal. Bon, ça rejoint un peu justement le bouquin, d'où la conférence. Mais j'ai pas réussi à trouver de réponse claire. Alors, il n'existe pas une seule réponse, hein, je pense, mais.
Voilà, vous avez répondu, merci.
Suivant.
Voilà.
Eric, non, Eric ? Ça me paraît une bonne question, parce que je sais
que
ça se pose beaucoup.
C'est une très bonne question, mais bien sûr, mais vous avez effectivement tout à fait raison. Il n'y a pas qu'une seule réponse à ça. Ça va dépendre de l'activité de chacun et du niveau d'occupation que ça va vous prendre aussi. En activité, par exemple, il faut savoir que vous, normalement, selon la loi, vous ne pouvez pas avoir deux activités salariées. Si vous êtes déjà à temps complet quelque part, vous ne pouvez pas avoir une autre activité salariée à côté. Évidemment, il y a du flou, hein. C'est-à-dire que vous pouvez faire quelques heures en plus si on est à 39 heures. Je crois qu'il y a, alors il y a des limites, jusqu'à des limites maximum qu'on peut faire par semaine, etc. Mais vous ne pouvez pas faire 90 heures par semaine, par exemple, même si physiquement vous avez le temps,
l'énergie,
la capacité, l'énergie. C'est illégal. Alors, encore une fois, je vous dis, c'est illégal. Je sais que malheureusement, il y a des gens qui le font parce qu'ils ne gagnent pas assez sur un métier. Ensuite, sur le fait de l'activité accessoire en tant que photographe, comme c'est du droit d'auteur, c'est en général compatible avec tous les métiers, y compris les métiers qui n'autorisent pas à avoir une activité accessoire à côté.
Je rebondis juste sur ma question qui allait être posée, c'est sur les fonctionnaires. On m'a posé la question, je suis fonctionnaire, est-ce que j'ai le droit ?
Oui, alors oui et non. Et sur les statuts de fonctionnaire, en général, il n'y a pas la possibilité d'exercer une autre activité professionnelle. Néanmoins, il y a la possibilité d'exercer une activité artistique. Donc, percevoir des revenus artistiques complémentaires à une activité de fonctionnaire, c'est possible.
D'accord.
Ensuite, qu'est-ce qu'on va mettre dans la définition d'activité artistique ? Et c'est là où nous, photographes, ça nous pose des soucis, parce qu'on est plein d'ambiguïté, hein, en tant que professionnel. Il faut que les choses soient claires. Une activité artistique, si c'est la vente d'œuvres, il n'y a pas de souci. C'est bien de l'art, on accroche sur les cimaises, on accroche des œuvres, on les vend, c'est une activité artistique. Ah, maintenant, si après c'est la réponse à une commande professionnelle, est-ce que c'est une activité artistique ou une activité professionnelle ? Et si on considère que ce n'est pas une activité artistique, alors nous, on est un peu dans la smoule, quoi, hein, pour faire clair. Donc c'est très ambigu par rapport au type de ressources que vous pouvez avoir à côté.
Les limites que j'avais vues, c'est en termes du contrat, par contre, qu'on a signé, où là, ça pose éventuellement des soucis, mais quand c'est dans le même secteur d'activité. Donc, mettons, si on est consultant en informatique, ça pose aucun problème, vu que ça risque pas de faire concurrence au métier initial, ou etc. Donc là-dessus, ça posait pas de problème.
Non, mais attendez, soyons clairs. Hein. Il est évident que si votre contrat de travail vous interdit ou que vous faites concurrence à votre employeur en ayant votre activité photo, c'est évident que vous vous mettez dans un mauvais cas, mais ça, c'est le propre de tous les contrats. Hein.
Ok, donc on va passer à la deuxième partie.
Au-delà de la création, comment vendre ses photos? Éric Delamarre.
Qui est consacré à la relation client. Moi, j'aurais une question là-dessus. Est-ce que, à ton avis, ça vaut la peine d'aller suivre des formations générales au commerce ou des formations générales à la vente pour le métier de photographe? Ou est-ce qu'il y a vraiment des spécificités qui font qu'il faut quelque chose de plus spécifique pour la photo?
Un bon vendeur est capable de vendre n'importe quoi. Une photo comme un tracteur. Le seul problème, c'est que quand on est agriculteur et qu'on vend des tracteurs, c'est pas nous qui fabriquons le tracteur. Donc, à la limite, si on dit que le tracteur est tout pourri, on dit bon, bah ouais, il est pourri, il y aura une affaire, c'est pas moi qui le fabrique. Maintenant, quand on vend des photos, c'est nous qui faisons les photos.
Son propre travail, oui, tout à fait.
Son propre travail, et pour certains, on y met, ils y mettent un peu de leur trip dedans, et quand ils se retrouvent face à quelqu'un, ou un client, ou un diffuseur, le téléphone sonne, oui. Oui, oui, bon, tout ça, qui vient de dire ça ne correspond pas du tout. Je suis désolé, mais il y a un truc qui m'embête un peu quand même, c'est que les gens n'ont pas forcément de respect du travail, et puis on a beaucoup de mal à se vendre soi-même. Donc on vendrait presque plus facilement quelqu'un d'autre que son propre travail, ou alors il ne faut pas forcément avoir d'amour propre sur son travail. Mais la technique de vente, à mon avis, est la même. Hein. C'est-à-dire qu'on s'en aperçoit, d'ailleurs, quand on doit négocier des devis ou des choses comme ça, les gens qui sont en face utilisent les mêmes techniques d'achat et de vente que quand ils négocient
des tuniques,
des machins d'impression, des objets, des choses comme ça. Enfin, pour ce que je connais, hein, je connais que la partie communication d'entreprise, hein, soyons clairs. Hein. Je ne connais pas le domaine de l'art et la façon dont les choses se passent avec ce type d'acheteurs qui sont quand même complètement différents. Et puis, vous voyez, je parle d'acheteurs.
Il y avait une question sale.
C'est que je suis photographe indépendant depuis 2 ans. Il y a une chose que j'aurais vraiment voulu savoir au début, c'est quand j'arrive sur le marché, quel tarif je dois pratiquer. Sur un reportage sur une journée, sur une utilisation dans un magazine de photos. J'avais aucune idée de ça, donc voilà.
Alors, j'adore ces questions sur les tarifs. J'adore. Si vous travaillez pour la presse, c'est pas difficile. C'est la presse qui fait ses tarifs. Donc là, ça c'est réglé. C'est un prix de page qui varie selon le type de presse, etc. Parce qu'ils ont calibré leur truc en fonction de ce que ça doit leur coûter. Alors à moins d'être une star, on rentre dans le moule. Et puis c'est ça, on prend ou on vend. C'est un prix à la page, que vous fassiez une photo, 2 photos, 4 photos ou 12 photos sur la page. Quand vous êtes face à une entreprise, ben, ça va être la cible. Ça va être le type de personne que vous avez en face de vous qui va finalement vous donner l'indication sur le prix de journée. Et le prix de journée reste en communication d'entreprise ce qu'on appelle une espèce de base qui leur sert à comparer. Alors ça n'a pas beaucoup de sens un prix de journée dans certains cas, surtout si vous faites des photos, je ne sais pas, 1, 2 ou 3 photos. Mais pour eux, ça leur sert de base. Ces prix de journée varient et surtout en ce moment, ils sont en train de se casser les figures. D'un autre côté, si vous travaillez avec des grosses agences de publicité, alors c'est pareil, jeunes ou vieux photographes, on s'en fout, les grosses agences de publicité, étant donné qu'ils intègrent les prix de photos dans la masse globale du budget, tous les prix de journée peuvent être très élevés. Donc on peut atteindre des prix de photos, des prix de journée à 5, 10 000, 15 000 euros sans être une star, en étant un photographe reconnu, on va dire. Alors ça existe, ils sont là. Ces photographes-là sont des gens dont vous ne connaissez pas le nom, peut-être moi non plus d'ailleurs, mais sont des gens qui travaillent régulièrement. Et puis vous avez une autre base moyenne de gens qui travaillent en communication d'entreprise, publicité, studio de création, etc. Et là, il va y avoir des prix de journée moyens, je dis, et sur Paris, je ne connais pas non plus toute la France, hein, qui vont s'échelonner entre 700-800 euros par jour à 1500 euros par jour, à peu près. Vous pourrez être au-dessus, hein, ou en dessous. Et puis après, vous avez d'autres prix de journée. Alors, ce que je vous dis là, ce ne sont pas des choses qui sont gravées dans le marbre, hein, bien sûr. Hein, c'est ce qu'on entend, ce qui se pratique, voilà. Et puis, vous en avez d'autres qui sont, quand vous allez travailler avec des gens qui auront des associations, des théâtres, des choses comme ça, vous avez des prix de journée qui vont descendre.
Tu pourrais préciser ce que tu entends exactement par prix de journée?
C'est une journée de, normalement... Alors ça varie aussi selon les cibles. Par exemple, quand vous travaillez avec des théâtres, des associations, des entreprises, dans le prix de journée va être inclus les droits pour la première utilisation, en général. Hors frais de déplacement, hors frais de production,
donc
hors tout ça.
Ouais.
C'est, on va
tu
dire,
tu
mise en œuvre.
Une journée.
temps passé plus droit pour la première utilisation.
Donc les droits sont compris dans le prix.
Dans le prix de journée pour la communication d'entreprise, c'est ce qui se fait depuis des années. Hein. Après, ça n'empêche pas d'essayer de négocier des choses complémentaires. C'est-à-dire qu'il faut savoir que ce n'est pas forcément tous droits qui sont compris. On sait que ils ont coutume de vouloir les droits pour les utilisations brochures, mailing, etc. C'est-à-dire ce qu'ils vont en faire d'une façon naturelle. Maintenant, si ensuite ils disent « oui, mais je vais faire une annonce presse », on dit « écoute, t'es gentil, mais là, au prix, je te le vends déjà ». On va faire un petit effort, hein, donc si tu pouvais me faire des droits en plus, ce serait pas mal. S'il va y avoir des PLV, c'est pareil, c'est des choses comme ça. Mais sur une utilisation courante, je suis désolé, hein, je peux pas être hyper précis non plus, parce que sinon on y passe la journée.
Oui, hein.
Mais il faut être prudent sur des discours qui peuvent être des fois très radicaux en disant c'est comme ça et c'est pas autrement. Là, ce qui se pratiquerait, ce qui semblerait se pratiquer aujourd'hui, même si c'est anormal, c'est que soient inclus des prix pour les droits pour la première utilisation dans le cadre de la communication d'entreprise. Quand vous travaillez à des agences de publicité, c'est différent, parce que dans le prix de journée, c'est souvent que le temps passé, les droits viennent en plus. La post-production se facture en plus.
D'accord.
Enfin, il vaut mieux, on va dire, c'est pareil, hein, je vais essayer de ne pas être trop affirmatif, il vaut mieux facturer la post-production en plus. Avant, on facturait bien les frais techniques et le développement en plus. Moi, je passais moins de temps à aller chercher mes films que je passe à faire la post-production. Hein, donc, le temps passé, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas facturé.
Rémi, question de Rémi, alors.
Donc, on est toujours sur la partie relation client.
Tout à fait.
Moi, ma question, c'était, donc j'aurais aimé le savoir au début, maintenant c'est un petit peu trop tard, mais ça a sûrement intéressé des gens. Quels sont le package obligatoire pour un photographe pour se lancer ? Est-ce qu'il a besoin d'un site internet, d'un book, des cartes de visite, de d'autres choses que j'aurais pas pensé ? Parce que pour trouver des clients, il va falloir se démarcher. Pour se démarcher, il va falloir une valise. Est-ce qu'on a besoin d'avoir déjà des références pour commencer à démarcher ? Ce genre de... Quel est le package de départ ?
Alors, je le répéterai plus souvent, mais je ne parle que pour moi et dans ce que j'ai... le connais, sachant que je ne connais pas tout. Il me semble que effectivement un photographe, c'est un individu qui crée, mais c'est pas la personne qui se vend, c'est le travail. Donc il faut quand même qu'il ait un book qui montre, qui soit en mesure de montrer ce qu'il fait. C'est souvent là-dessus qu'il est quand même interrogé. Savoir l'obligation du site internet, j'aurais tendance à dire c'est mieux. Hein, obligé, je sais pas, ça dépend de la cible. Et si vous êtes vraiment dans le domaine de l'art, de la vente d'œuvres et des choses comme ça, c'est mieux parce que ça permet au téléphone, si vous prospectez ou si vous voulez vendre, montrer une série que vous voulez exposer, que les gens puissent la voir en disant ben voilà, sur un site internet, machin, vous êtes devant, vous regardez. Et ça facilite le contact, on va dire. Le site internet, ce n'est pas la panacée. C'est une très belle carte de visite. Mais ce n'est pas forcément et obligatoirement ce qui vous fera vivre. Ce qui vous fera vivre, c'est d'aller prendre votre téléphone, d'avoir le client, d'éventuellement le voir, de lui dire « allez voir mon site internet », de faire un devis, de le relancer. C'est vraiment un vrai travail, quoi. C'est un travail de commercial.
Et le site, c'est la brochure qui va supporter le travail, mais c'est le site ne fait pas la vente tout seul.
C'est la grosse carte de visite, je trouve ça bien comme terme.
Ouais, et puis, il faut quelque chose à laisser quand vous allez voir le client, de toute façon.
Là, la carte de visite, plus classique.
Ou une carte de visite, ou une petite brochure, ou un truc. Alors, aujourd'hui, avec les... Alors, je dis vraiment aujourd'hui, parce que comme j'ai connu un temps où tout ça était plus compliqué... aujourd'hui, c'est vrai qu'à la limite, on pourrait presque faire une petite brochure à laisser pour chaque client. D'ailleurs, il suffit, il y a d'excellentes imprimantes qui ne coûtent pas très cher, donc il suffirait de préparer des brochures en fonction du client qu'on va voir. Ben, on lui laisse le petit flyer adapté, à la limite, avec bonjour machin.
De faire une carte de visite par client, finalement.
C'est un petit book que l'on imprime avec une sélection. Qui va dépendre des besoins de la nature du client. Ces petits livres iPhoto ou autres ne coûtent plus.
C'est vachement
plus très
bien.
Cher à réaliser.
C'est comme les lettres personnalisées que vous recevez par mail. On vous dit bonjour. Alors ce que j'adore, c'est bonjour monsieur, madame de la Marne. C'est les deux, hein, je suis les deux, ils ne savent pas très bien, donc ils ne m'ont pas ciblé. Donc. Et rien ne vous empêche finalement, comme vous savez qui vous allez voir, rien ne vous empêche de laisser un petit flyer avec le nom de la personne. En disant, voilà, en les remerciant de vous avoir vu, reçu, etc. Bon, pourquoi pas? Et surtout d'adapter, de montrer le type de travail. Mais je crois qu'il faut vraiment montrer son travail, le plus possible. Alors, ne pas hésiter.
Une dernière question de Rémi peut-être, et puis on passera à au dernier thème qui sera le marketing. Donc, dernière question sur la relation client.
On a évoqué les clients de la presse, du journalisme, des commandes. Le milieu de l'art, c'est encore un milieu qui est différent.
Oui.
C'est-à-dire que cette fois-ci, on ne va peut-être pas aller chercher directement le client, mais c'est le client qui va venir en quelque sorte chercher l'œuvre. Les tarifs sont complètement différents a priori. Et j'ai cru comprendre qu'on négociait pas du tout les tarifs de la même manière. C'est-à-dire que cette fois-ci, on va fixer un prix d'une œuvre. Le client est intéressé ou pas? Il est dit, enfin, en tout cas, on entend, que plus le prix de l'œuvre va être cher, plus il va être intéressant pour des acheteurs d'art. Est-ce que tu aurais des informations, est-ce que c'est une légende urbaine? Comment est-ce qu'on négocie une photo d'art? C'est encore un autre domaine, mais...
Alors, c'est pareil. Le domaine de l'art, je le connais encore moins que le domaine du journalisme. Toute la réflexion que je peux avoir sur là-dessus, elle est que moins vous vendez cher, plus vous êtes enquiquiné d'une façon générale. C'est-à-dire moins un client paye, plus il est exigeant. Moins un client paye, plus il est exigeant et plus il paye à long terme. Donc si vous voulez pas être enquiquiné, vous demandez très cher. Et vous allez être payé content par quelqu'un qui sera ravi. Donc, c'est tout. Alors après, si on applique ça au domaine de l'art, j'aurais tendance à dire que une photo qui va être prétendue être une œuvre d'art, qui va être vendue 50 euros en 50-60... Voilà. La vente d'une œuvre, c'est quelque chose qui doit rester la vente d'une œuvre. Quand dans les milieux de l'art, un acheteur, je crois qu'il a un coup de cœur pour une œuvre, ou alors il pense que cet auteur-là va devenir quelqu'un de
côté.
Oui,
il peut y avoir des achats coup de cœur et des achats réfléchis.
Réfléchis, raisonnés, pour dire, c'est quelqu'un qui va monter et tout, parce qu'il le sent. Et, tant mieux, je veux dire. Et à ce moment-là, il va vouloir acheter cette œuvre pour thésauriser un peu. Et, mais tant mieux pour le vendeur, tant mieux pour le photographe. Si le montant est trop faible, il y a effectivement le risque de ne pas être pris au sérieux. Alors, je ne vous donnerai pas la notion du trop faible.
Vous parlez de la notion d'œuvre d'art, là, vous parliez de photos à 50 euros. J'imagine qu'elles sont tirées à des milliers et des milliers d'exemplaires. Tandis que je pense que l'œuvre d'art, sa particularité, c'est qu'elle est rare, est unique. Et je pense, normalement, dans ces cas-là, quand on voit exposer à la FIAC ou ailleurs, c'est tiré à 5 exemplaires ou 10 exemplaires. Et c'est vraiment, effectivement, là, ça a une cote, enfin une valeur. Suivant qu'elle trouve un acheteur, mais c'est une valeur beaucoup plus importante. Et l'œuvre ne doit pas être tirée plus, parce qu'à ce moment-là, il y a tricherie de la part du photographe. C'est-à-dire que le négatif doit être tiré qu'en 5 ou 10 exemplaires.
De toute façon,
la limite... Comparé à une œuvre d'art, c'est la rareté.
Oui, il y a une limite légale en France pour qu'une photographie soit considérée comme œuvre d'art, c'est 30 exemplaires. Et c'est le Code général des impôts qui l'impose par son article 98A de l'annexe 3, alinéa 7. J'aime bien ça. Mais vous pouvez faire moins de 30, bien sûr.
Ok, alors on passe à la dernière partie, donc la partie marketing.
Au-delà de la création, comment vendre ses photos? Éric Delamarre.
Question sale.
Il y a un aspect marketing aussi sur le support. Enfin, j'avais vu des comparatifs aussi sur la durée de vie, des couleurs, des photos, sur fonction de l'exposition aux UV, etc. Quand on veut vendre une photo, donc ça rejoint l'aspect support et marketing, quel support il vaut mieux avoir pour assurer en même temps une qualité au client à qui on vend une photo d'art, pour que les couleurs passent pas trop vite, ou est-ce qu'il vous la faut sur un développement à papier, sur quelque chose de cartonné comme il y a dans les expos? Pas le mieux, puisqu'il y a plusieurs solutions, mais quel est le plus indiqué, on va dire?
Vous me demandez d'avoir des connaissances tellement étendues que je commence à être
On a quelques testeurs techniques dans le fond, il y a peut-être un des deux qui pourra réagir. Non ? Hervé répond.
Bonjour. Pour simplifier, quand le numérique est arrivé, quand les premiers tirages ont été réalisés, le client n'avait même pas l'idée que l'image pouvait disparaître au bout de 3-4 années. Donc aujourd'hui, c'est vrai que le discours marketing des fabricants de machines s'est beaucoup développé sur le sujet. Et donc les clients qui font des collections commencent à être un petit peu plus au fait et commencent à connaître un peu le sujet. Mais pas obligatoirement tous. Donc, il n'y a pas tellement de solutions, il n'y a pas tellement de réponses. Certains vont être sensibles et d'autres pas du tout. Aujourd'hui, il n'y a plus tellement de problèmes de conservation à partir du moment où les encres vont être pigmentaires. Il faut mieux éviter les encres à colorants et puis avoir des papiers à peu près neutres et puis ça ira bien, quoi.
Parce qu'on est sur le marketing, est-ce que c'est un élément qui va...
Epson, avec la digigraphie, travaille beaucoup sur le domaine et essaye d'en faire une norme, mais il y a d'autres procédés qui permettent d'avoir une conservation assez longue. Et je vous rappelle que des œuvres d'art qui sont aujourd'hui dans les musées n'ont pas obligatoirement été faites pour être conservées très longtemps. Hein. Des photos de Nadar ou autres, Nadar n'a jamais pensé qu'un siècle plus tard, les photos seraient dans les musées et qu'elles vaudraient autant. Quoi. Donc,
Ok. Rémi ?
Oui ?
Toujours sur le marketing ?
Sur le marketing, il y a un domaine qu'on n'a pas beaucoup évoqué, qui est le domaine de la mode. Il y a quand même beaucoup de photographes en général qui veulent essayer, pas beaucoup de place.
Il y a de la place nulle part. Hein.
Dans ce domaine de la mode, il y a en général l'image du photographe, l'image de marque du photographe va être très importante. Et pourtant, vivre pour un photographe débutant, enfin se lancer dans le métier de la mode, va être assez complexe. Et je me demandais comment essayer de, à la fois pouvoir faire des photos, on va dire pour manger, commerciales, et faire des photos plus pour défendre son image. Comment essayer de mixer les deux sans que les photos commerciales ne desservent l'image?
Vaste débat, surtout en mode. D'abord, qu'est-ce qu'on appelle, enfin, de quel mode on parle, comme de quel.
Je sais pas. Ça pourrait être de la mode pour la publicité, par exemple.
Alors, c'est justement pour ça que j'ai dit de quel mode on parle. Si c'est de la mode et photos de mode pour les catalogues de vente par correspondance, c'est pas la même que si c'est de la mode pour un créateur. Et la parution dans un catalogue ou la parution dans Vogue, c'est pas évidemment.
La Redoute et Vogue, c'est pas encore les mêmes.
Oui, mais enfin, c'est bien la Redoute aussi.
Ah, c'est très bien, oula, je me dis.
C'est vrai que du coup, ça reste la mode, les deux, mais ce ne sera pas les mêmes photographes, ce ne sera pas la même façon de faire. Alors, pour ce qui est du catalogue, c'est clair, c'est pour la mode comme pour les produits. Hein. C'est une technique, c'est des contacts, c'est des prix qui sont définis en fonction de un certain nombre de choses. Pour tout ce qui est créa et parution, là, je suis beaucoup plus dubitatif, comme on dit. C'est-à-dire que j'ai des échos très, très, très variables de ça. D'abord, parce que comme je donne des cours dans des écoles et que dans les jeunes photographes, il y en a beaucoup qui veulent faire de la mode et qu'il y en a d'ailleurs qui sont particulièrement talentueux dans ce qu'ils font. Ils font vraiment des choses très belles, enfin, comme tu dis, créatives. Enfin, il y a des choses qui sont très intéressantes. Alors après, ils vont, pour se faire connaître, ils vont paraître dans des magazines qui ne les payent pas.
C'est un premier point intéressant.
Sur lesquels il y a leur nom. Donc ils disent, oui, j'y vais, mais parce que tu comprends, il y a mon nom, on va me repérer. Alors c'est pas faux. Il n'y en a pas qu'un, hein, il y en a beaucoup. Hein. Maintenant, on va bientôt devoir citer les magazines qui payent. Donc, et puis ils vont éventuellement ensuite avoir des demandes, soit de magazines qui payent, soit de créateurs qui voudront le faire travailler, etc. Donc ça, c'est intéressant. Ça veut dire aussi qu'il faut absolument, du coup, exiger que son droit moral soit respecté. Hein, donc le nom figure et puis en bonne place quand même, que ce soit pas encore 6 dans la pliure du magazine derrière la colle, quoi, hein, donc faut que ce soit vraiment une série par un tel, enfin bon, que ce soit bien mis en valeur.
Et je crois que comme il y a beaucoup de demandes de la part des jeunes photographes, la concurrence est tellement rude que les magazines, et bon, pas pour citer que les magazines, mais profite un peu de cette demande et cette créativité.
Bien sûr, mais c'est énorme dans le principe. Il y a un jour, il n'y a pas longtemps, je ne suis pas de mode, mais il y a quelqu'un qui m'a demandé de faire des photos pour un magazine. Alors il me dit, je dis, bon, très bien, c'est quoi? Alors c'est un reportage, j'ai été en droit, je dis, très bien. Et le budget, il me dit, mais rien. Je dis, comment ça, rien? Oui, mon magazine, c'est un gratuit, alors je ne vous paye pas, quoi. Je vais, moi, je fais comment? Non, mais c'était pour vous comprenez, ça vous fait de la pub. D'accord. Moi, je dis, écoutez, non, il n'y a rien à faire, moi, je peux pas. Là. À ce prix-là, c'est pas très intéressant.
Question
c'est sale. Énorme, hein, ils sont sincères. Hein.
Question ou réaction sale?
Bonjour.
Bonjour.
Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment tirer parti de mes photos s'ils me sélectionnent pour passer dans leur magazine. Comment tirer parti de mes photos pour derrière faire quelque chose qui pourrait me rapporter de l'argent, ou si on met à part la publication de mon nom, enfin, comment faire pour faire fructifier mes photos, quoi.
Bah, à partir du moment où vous avez des photos qui paraissent quelque part, utilisez-les comme ce qu'on appelle une référence, c'est-à-dire en valorisant le magazine qui vous a fait paraître, en disant voilà, j'ai paru à tel endroit, j'ai été sélectionné pour. C'est comme les concours, des choses comme ça. Notre travail, ça veut dire que sous-entendu, notre travail est suffisamment bon pour paraître, donc tel magazine m'a fait paraître. Ça permet d'être éventuellement un élément pour essayer d'aller chercher des choses qui seront plus rémunératrices, qui sont préférables. Donc, et puis après, essayer d'avoir aussi un certain nombre d'exemplaires pour avoir des références à montrer, en disant que vous avez paru, que vos photos ont paru dans tel ou tel magazine, dans tel ou tel endroit. Mais vous avez des magazines qui ne payent pas, mais qui ont une extrême notoriété, on va dire. Et que pour paraître dans ce magazine-là, c'est déjà bien, quoi. On a été sélectionné. Alors, ils jouent de ça, hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ne payent pas, je pense. Ça peut vous servir, dans ce sens-là, d'être paru dans tel ou tel magazine.
Donc, tu es un petit peu... Tout à l'heure, tu avais l'air d'être extrêmement critique. Mais en même temps, maintenant, tu as l'air de dire, mais ça peut quand même servir à certaines étapes.
Autant, puisqu'ils ne payent pas, autant s'en servir, hein. Autant les utiliser. Alors, à la limite, je dirais qu'il vaut mieux donner quelque chose que de faire un prix trop bas. Si vous voulez vraiment faire quelque chose, donnez-le. Parce que quand vous le donnez, c'est un cadeau. Quand vous faites un prix trop bas, c'est une vente. Vous donnez une valeur à votre travail. Quand vous faites un cadeau, vous faites un cadeau. La valeur, après tout, elle peut être immense. En revanche, si vous dites, si cette photo, vous donnez une photo à quelqu'un, vous lui donnez, et puis vous avez mis tout, c'est un cadeau. Si vous lui dites, écoute, je te fais un cadeau, je te la vends 100 €, il va dire, oh purée, l'escroc, quoi. Ou alors, il va dire, non, 100 €, enfin bon, voilà. Il va y avoir un rapport à l'argent.
J'ai déjà fait ce genre d'expérience, donner des photos. C'est quand même intéressant de faire un bordereau de diffusion et restreindre quand même l'utilisation pour pas qu'après cette photo se batte dans la nature.
Tout à fait.
C'est la seule chose que je voulais dire parce que j'ai déjà eu l'expérience.
Donner une photo ne veut pas dire donner tous les droits de la photo, je
crois. Non, vous donnez pas les droits à photo, mais il y a des gens qui ont tendance à aller un peu trop loin. Moi, j'en ai fait expérience personnelle, c'est pour ça que je me permets d'intervenir.
Excellente remarque. Donner une photo, ça ne veut pas dire qu'on donne les droits de la reproduire.
Je voudrais remercier tous les gens qui ont participé. D'abord, évidemment, Eric et Rémi, merci pour votre échange. Je voudrais également remercier toute l'équipe qui a travaillé en coulisses pour préparer la rencontre. Pascal, Baptiste, Aude, Hélène, Elsa et notre sponsor Miss Numérique et toute l'équipe de la librairie Erol qui va nous accueillir maintenant. Eric, je crois que tu voulais dire quelques mots.
Oui, moi j'ai un spécial remerciement à faire parce que sur la première édition de l'ouvrage de Profession Photographe Indépendant, hein, j'ai pas fait de dédicace. Et j'estime que j'ai été très grossier en ne faisant pas ces dédicaces, parce que même si j'ai fait le fond de ce livre, il y a des gens qui m'ont beaucoup inspiré et beaucoup aidé dans le simple fait que ce livre existe. Je vous ai expliqué tout à l'heure pourquoi. Sans cet ami qui m'a poussé à sortir de l'UPC l'édition de ce livre, il y serait toujours et je ne serais pas devant vous aujourd'hui. Donc je voudrais vraiment faire un spécial remerciement pour elle et pour l'inspiration sur les introductions du livre. Alors merci particulier à Vincent aussi, merci à l'éditeur, malgré tout, sans lui je ne serais pas là non plus. Hein. Et on s'aperçoit que c'est bien beau d'avoir des informations et des choses comme ça, s'il n'y a personne pour faire en sorte que ces informations soient diffusées, ça n'a pas beaucoup de sens. Alors malgré tout, même si ce livre est en vente, sur le site il y a beaucoup d'informations. Ça fait des années qu'il existe, le site internet. Si jamais vous avez des doutes, vous êtes perdu, rien ne nous empêche d'y aller voir. Mais entre un truc physique comme ça qu'on peut emmener et internet, moi je préfère ça, il n'y a rien à faire. Même si c'est embêtant pour les forêts, il y a quand même un moment où on a besoin d'avoir en main quelque chose, des informations, réécrire, etc. Et alors l'éditeur a une excellente idée dans la mise en page, à laisser des marges. Proposer. Vous pouvez écrire tout ce que vous voulez et les questions que vous avez envie de poser à la prochaine rencontre. Voilà, en tout cas, je vous remercie, vous, d'être là.
Merci, merci beaucoup. Merci à tous.
Il me reste à vous remercier de votre écoute. Pour ne rater aucune émission de Déclencheur, je vous invite à vous abonner à Déclencheur. L'abonnement est complètement gratuit. Il s'agit simplement de vous tenir informé de la sortie des nouvelles émissions. Et on supporte de nombreuses méthodes d'abonnement sur Déclencheur, à commencer par l'application iPhone, mais toujours iTunes, RSS, donc Google Reader, Netvibes et compagnie, Twitter, Facebook et bien entendu l'email. Toutes les informations pour vous abonner sont sur www.déclencheur.com. À bientôt.